Donc on retourne dans le livre de l'Exode et on va commencer au chapitre 6. Donc Dieu se révèle à Moïse et à Israël. On voit ça dans le chapitre 6, versets 1 à 13. Deuxièmement, le chapitre 6, 14 à 25, se veut plutôt être un chapitre qui nous oriente vers la généalogie de Ruben, Siméon et Lévi, d'où sortira les futurs chefs des enfants d'Israël. Et puis on verra Moïse se débattre devant l'appel de Dieu et ses commandements à faire sortir ce peuple et aller au-devant de ce pharaon rebelle et indifférent à la parole de Dieu. « Je n'ai pas la parole facile », dira Moïse. Et enfin, première entrevue avec ce grand pharaon, et donc ce premier signe au chapitre 7, versets 1 à 13, que ces deux hommes vont apporter devant le pharaon. Donc on va lire de versets 1 à 13 pour commencer. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous charge les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va parler à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu se révèle à Moïse et à Israël, et je voudrais revenir un petit peu sur les derniers chapitres, les derniers versets du chapitre 5. Et les trois derniers versets du chapitre 5 nous parlent de ce que Moïse est un peu inquiet, puisque il voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Et j'aimerais vous lire ces passages. Il leur dit « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Moïse est un peu, découragé parce que, en fait, le fait de vouloir délivrer le peuple, mais le peuple d'aller vers ce pharaon, le peuple est de plus en plus persécuté par le pharaon et les travaux deviennent de plus en plus pénibles. Alors, il y a des doutes dans la vie de ce serviteur de Dieu qu'est Moïse. Alors Dieu parla à Moïse, se plaçant devant lui pour lui montrer qu'il n'a pas de crainte à avoir. Il dit au verset 10, au verset 2, « Je suis l'Éternel ». Et on voit aussi dans le Nouveau Testament que les apôtres n'avaient pas de crainte à avoir non plus quand sur ce lac de Tibériade, une tempête de force je ne sais pas combien est arrivée et que le bateau chavirait. Jésus est arrivé là et il a dit à ses serviteurs, n'ayez pas peur. Et je pense que là aussi, Dieu veut rassurer Moïse de ses craintes. Et nous avons donc à attendre de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous sommes dans la crainte nous-mêmes. L'Éternel a plusieurs reprises déjà dans le livre de la Genèse. Il a parlé de ce nom de l'Éternel, qui va prendre un nouveau caractère maintenant dans le livre de l'Exode. Il définit la relation de Dieu avec son peuple Israël. Rappelons que dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus porte le nom de l'Éternel Jéhovah. On voit chapitre 6, verset 2. Mais à sa venue ici-bas, il reçut le nom de Jésus, c'est-à-dire Jéhovah Sauveur. Et c'est aussi notre privilège à nous qui croyons. Nous possédons cette joie, car nous avons mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Et c'est pour cette raison qu'il est notre Jéhovah Sauveur dans nos cœurs aujourd'hui. Oui, Jésus-Christ est notre Sauveur. Et donc, à partir du verset 4, Dieu fait le lien de l'alliance, de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, avec le gémissement des fils d'Israël. Il dit, « Et j'ai aussi établi », verset 4. Et j'ai aussi entendu, verset 5, et je me suis souvenu de mon alliance, verset 5. Ce n'est pas que Dieu avait oublié, mais c'est que le temps annoncé à Abraham de faire sortir sa postérité d'un pays qui n'était pas le sien était arrivé à son terme. Abraham avait été averti longtemps à l'avance, même avant qu'il y ait une descendance. Il savait ce qui arriverait à ce peuple et ses descendants. Dieu s'était déjà révélé à lui bien longtemps à l'avance, et on voit ça dans Genèse chapitre 15. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Abraham avait été averti bien longtemps à l'avance et Abraham avait cru à ce que Dieu allait faire. Et aujourd'hui, ces choses se réalisaient. Alors son nom, je suis l'Éternel, verset 6, est ici comme sa signature, son sceau sur l'alliance et la marque de garantie de son exécution. « Je suis l'Éternel » annonce aussi la rédemption. Le peuple entièrement délivré de la puissance de l'esclavage de l'Égypte par la puissante main de Dieu, agissant en sa faveur, aura l'assurance, à ce moment-là, que l'Éternel est son Dieu. Verset 7, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous charge les Égyptiens. » Tout, depuis la délivrance jusqu'à l'entrée à la prise de possession du pays promis au patriarche, repose donc sur la fidélité et la puissance de l'Éternel. Le peuple n'aura rien d'autre à faire que de croire Dieu et d'appliquer ce qu'il lui demande. Et je dirais que c'est ça la foi qui sauve. C'est aussi la même chose pour nous. On croit ce que Dieu dit et on se confie dans ce qu'il dit. Et c'est ça la foi qui nous sauve. Parce que nous n'avons pas vu, nous croyons sans avoir vu, nous nous reposons simplement sur ce que Dieu dit. Et nous avons la certitude parce que Dieu ne ment pas. Mais, malheureusement, les fils d'Israël n'écoutent pas ce nouveau message de l'Éternel. Seuls, ils ont devant eux les difficultés. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Verset 9. Et je crois que bien souvent, c'est la même chose pour nous. Nos tracasseries nous empêchent d'écouter Dieu. Le stress de la vie, les injustices nous empêchent d'avoir de bonnes relations avec Dieu et nous empêchent d'avoir une bonne communion avec lui. On est plus accaparé par les problèmes qui nous entourent et on déconnecte notre vie avec le Seigneur. Et donc cela peut aussi apporter un découragement pour les conducteurs. C'est le cas pour Moïse, au verset 12. Moïse répondit, en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'écoutent point. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. » Si les enfants d'Israël n'écoutent pas, comment le Pharaon pourra-t-il écouter? Comment les gens du monde vont-ils réagir si déjà le peuple de Dieu est incrédule à la parole de Dieu? Et nous manquons souvent de conviction, nous les chrétiens, enfin moi en tout cas. Et je dirais que cela ralentit l'œuvre de Dieu dans notre témoignage et parfois même dans notre communauté. Alors, Dieu parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres pour les fils d'Israël. Encourager les uns et avertir les autres, verset 13. Croyons que le Dieu qui a agi au temps de Moïse, c'est aussi celui qui agit à notre époque. Ayons cette conviction, car rappelons-nous que ce qui empêche souvent Dieu d'agir, c'est notre manque de foi. Un jour, Jésus était fâché, il disait, « Je ne peux rien faire comme miracle dans cette région à cause de l'incrédulité des gens. » Et je crois que parfois ça nous parle. Est-ce qu'on n'est pas un peu fermé parfois et à ce point que on ne récolte rien. Le Seigneur veut nous interroger nous-mêmes. Notre manque de foi, notre incrédulité sont la cause souvent de fois que nous ne récoltons rien. Passons au chapitre 6, versets 14 à 25. Alors ce chapitre 6, 14 à 25, c'est, je dirais, une parenthèse, il parle de la généalogie de Ruben, Siméon et Lévi. Je ne vais pas lire le texte parce que ça prend du temps et ça ne va pas nous avancer à grand-chose, vous le lirez chez vous. Le verset 14 semble annoncer l'énumération de tous les chefs des maisons de pères en Israël. C'est un point important, car les pères sont responsables de l'état spirituel et moral des maisons que Dieu leur a confiées. Et ça, on avait déjà vu ça dans le chapitre précédent, chapitre 4, 24-26, combien il était important pour un serviteur de Dieu de bien conduire sa maison. On avait vu que Moïse n'avait pas circoncis ses fils et ça avait créé un problème. Et c'était parce qu'il avait peur de faire souffrir sa femme, mais il n'avait pas obéi à Dieu. Et donc l'important, c'est avant tout d'obéir au Seigneur. Même si c'est difficile, Dieu veut qu'on lui obéisse en premier. Alors, après la mention des fils de Ruben et de Siméon, les deux fils aînés de Jacob, de nous parle le chapitre 29 de la Genèse, versets 32 et 33, la parole s'arrête aux fils de Lévi, attirant ainsi notre attention sur eux, les enfants de la sacrificature. Les prêtres. Nous trouvons en effet une mention spéciale de la famille d'Amram, fils de Kehath, mari de Jochébed, père de Moïse et d'Aaron. On remarquera que Moïse et Aaron, ensemble, représentent Christ, à la fois médiateur et intercesseur et sacrificateur. On pourrait dire que le principe de l'élection apparaît dans ces versets, car le plus grand honneur n'est pas donné au premier-né, selon la nature, car Lévi était le troisième fils de Jacob. Et Aaron est né avant Moïse. On trouve ça au chapitre 7, verset 7. Et c'est à cause de la faiblesse de Moïse que l'Éternel lui a donné son frère aîné pour l'aider dans son service. La généalogie des fils de Lévi nous conduit jusqu'à Jishéal, Israël, Aaron et ses fils, et Phiné, que l'on retrouve ainsi que leurs descendants dans l'histoire de la sacrificature en Israël. On peut faire aussi le lien de cette famille de Lévi avec l'Église aujourd'hui, parce que nous aussi, Dieu nous a choisis, les chrétiens, comme des sacrificateurs pour lui. Trouvons dans l'épître de Pierre que nous sommes, on pourrait le lire, nous sommes de ceux que Dieu s'est choisi pour apporter cette bonne nouvelle au monde. C'est donc 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, c'est dit ceci: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et puis dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 6, là c'est clair, que ce que Dieu a fait de nous, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors nous sommes semblables au peuple d'Israël autrefois. Nous faisons les fonctions aussi de sacrificateurs pour Dieu. C'est une charge importante qui nous est confiée. C'est un privilège, mais une charge importante qui nous est confiée, comme ça l'était pour le peuple d'Israël. Alors maintenant, on va voir la dernière objection de Moïse, chapitre 6, 26 à 30. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit : Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ce sont eux qui parlent à Pharaon. Ce sont ceux qui parlent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse : Je suis l'Éternel. Dites à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel : Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il ? Ah, je crois que on peut bien se comparer à Moïse aussi. On a souvent la langue embarrassée. On n'a pas la parole facile. Non, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et donc, nous reprenons au verset 26. Nous venons de voir qui était généalogiquement cet Aaron et Moïse qui devaient faire sortir d'Égypte Israël. Mais dès le verset 27, dans l'ordre de Dieu, c'est Moïse qui vient en tête. Il est écrit : Ce Moïse est cet Aaron. Et pourtant, pour la troisième fois, Moïse fait état de sa faiblesse devant l'Éternel. On l'a vu au chapitre 3, verset 11 à 13, au chapitre 4, 1 et 10 à 13, et chapitre 6, verset 12 et 30. Mais Dieu a fait son choix. C'est ce Moïse. Et quand Dieu nous a choisis, il a dit, ce Christian, c'est celui-là que je vais me servir pour travailler dans Chinonet. Et puis ce Ismaël Héron, il va travailler dans le Vendômois, et puis ainsi de suite. C'est celui-là qu'il a choisi. Et puis ce n'est pas un autre. Et c'est Moïse qui vient en premier. Il a décidé comme ça. Dieu connaît toutes choses d'avance. Peut-être que c'est là que se situe l'élection. Dieu a fait son choix. Mais malheureusement, la faiblesse et l'imperfection de Moïse sont donc pleinement exposées. Mais nous pouvons penser que cet homme, malgré sa faiblesse, se montrerait un serviteur de Dieu exemplaire. Il a appris rapidement que s'il était un vase de terre, il devait apprendre à laisser la puissance de Dieu le transformer et s'accomplir au travers de lui. Je dois l'apprendre aussi. Ça n'est pas facile. Mais quand Dieu veut se servir de nous, c'est aussi un privilège que Dieu veut se servir de nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Et puis il dira aussi dans 2 Corinthiens 12, 10, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'apôtre Paul dit ça. Laissons le Seigneur agir dans nos vies. Souvent, c'est nous qui entravons la main du Seigneur Si nous sommes dociles dans sa main, le Seigneur peut faire de grandes choses avec nous. Laissons-le nous transformer. Alors nous arrivons à la première entrevue avec le Pharaon. Le premier signe, chapitre 7, 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonne, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, fais un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant le Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne coûta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alors Moïse a l'honneur de représenter Dieu devant le Pharaon, tandis qu'Aaron, lui, transmettra les paroles et fera les miracles de sa part, et il prend donc la verge. La verge qui symbolise la puissance de Dieu. Chapitre 7, 19, 8, 5, 16, 17. Et donc pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël. Et nous, on a déjà vu au chapitre 5, verset 23, que le Pharaon avait décidé de ne pas laisser aller les fils d'Israël. Il avait une main d'œuvre facile, c'était difficile de quitter, de laisser partir tous ces hommes de son pays. Il en profitait beaucoup, et donc il n'avait pas décidé de les laisser partir. Malgré cela, avant d'exercer un grand jugement sur l'Égypte, l'Éternel veut l'avertir, encore une fois, par le signe de la verge d'Aaron, changée en serpent. C'est alors qu'à la demande de Pharaon, eh bien les devins en font autant. Et on voit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 5 et 8, que on trouve les noms de ces devins, c'est Jannès et Jambès. Et ce récit nous est rappelé pour nous avertir, pour nous-mêmes, que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Tout esprit qui se dit de Dieu. Parce qu'on voit que là, ils ont la possibilité, Satan donne la possibilité à ces hommes de faire un miracle aussi, et ça peut forcément aveugler les personnes, et c'est le cas de Pharaon. Donc ces deux hommes résistèrent à Moïse en contrefaisant ce miracle, d'où la tromperie du diable, imitation de la vérité, mais reniant la puissance et la manifestation la plus forte de l'opposition au témoignage de Dieu au monde. Comme quoi, on doit être prudent, aujourd'hui aussi. Et puis, cet avertissement à ne pas ajouter foi à tout esprit, face à des manifestations miraculeuses. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21 à 23. C'est une sérieuse mise en garde qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ou en tout cas on doit sonder aussi les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Alors, devant ces appels de Dieu, il ne faut surtout pas s'endurcir. S'endurcir devant ces avertissements, car Dieu veut nous avertir pour notre bien. Il ne veut pas nous avertir pour nous anéantir, comme il le fait pour le Pharaon. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Au contraire, Dieu cherche notre vie. Et je crois que, malheureusement, le Pharaon n'a pas accepté cet appel du Seigneur. Il a subi de grandes souffrances, de grandes calamités, et devant toutes les calamités, il s'est endurci toujours plus, plutôt que de se laisser briser devant l'appel de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur appelle, comme autrefois, alors n'endurcissons pas nos cœurs devant l'appel du Seigneur. Certes, Dieu aura le dernier mot, car on voit que la verge d'Aaron a englouti celle des devins. Dieu est le Tout-Puissant. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, la pensée du Pharaon incrédule sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Son cœur s'endurcit devant ce miracle. Et donc, que reste-t-il à ceux qui se sont endurcis? Le jugement. Nous verrons dans les prochains chapitres comment les jugements vont secouer le pays d'Égypte jusqu'à ce que le Pharaon laisse partir les enfants d'Israël. Alors que dirons-nous de ce passage que nous venons de lire? Qu'en tirer pour nous ce matin? Quelle leçon spirituelle? Nous avons vu au travers de ce passage que Dieu est celui qui se révèle. C'est un Dieu accessible. Je suis l'Éternel, verset 2. C'est un Dieu qu'on n'a pas de crainte à avoir. Moïse n'a pas de crainte à avoir, et nous non plus. Il est un Dieu qui attend, donc qui entend la détresse de son peuple. J'ai entendu, verset 5. Donc le peuple n'a pas à craindre. Un Dieu qui se souvient de l'alliance qu'il a faite avec ce peuple. Je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu n'oublie pas les opprimés. Ne croyons pas que Dieu ne nous a oubliés si nous sommes dans la détresse. Dieu est celui qui nous a choisis comme peuple mis à part pour lui. Nous avons le rôle de sacrificateur pour faire sortir les perdus de ce monde. Nous sommes les intercesseurs, nous sommes des médiateurs et nous sommes des bergers. Il est un Dieu qui se révèle avec puissance au travers de ses serviteurs. Il donne des ordres aux uns, à Israël, pour les encourager, verset 13, et des avertissements pour le Pharaon, dans le même verset, pour qu'il laisse aller le peuple. Il est le Dieu qui veut se servir de nous, avec nos faiblesses. Rappelons-nous ce que Dieu a fait avec les faiblesses de Moïse. Abandonnons-lui peut-être le petit potentiel que nous avons, remettons-lui entre ses mains et il en fera de grandes choses. Dieu veut se servir d'un vase vil pour en faire un vase d'honneur. On pourrait lire tout le chapitre de Romains 9. Et puis, cet avertissement à ne pas ajouter foi à tout esprit face à des manifestations miraculeuses. Jésus a dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21 à 23. Et puis surtout, ne pas s'endurcir devant l'appel de Dieu et ses avertissements. Car il est le Dieu qui avertit avant d'apporter ses jugements. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et je me souviens, avant d'intervenir pour Sodome et Gomorre, Dieu avait averti ce pays. Et pourtant, Abraham avait intercédé. Mais il n'y avait pas de juste dans cette ville. Alors, je pense qu'à Chinon, il y a un peuple nombreux pour le Seigneur. Et Dieu, au travers de nous, veut les avertir. Donc, faisons notre mission que le Seigneur nous a appelés à faire ici à Chinon. Même si nous sommes des témoins pas très forts, mais Dieu est un Dieu fort, lui. Donc, laissons-le agir dans nos vies et il nous transformera. Et il fera de nous des vases d'honneur, comme il l'a dit. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant.